Chapitre 15. Je laissai une semaine s'écouler avant de retourner à la Bottellerie. Dans l'espoir de calmer mon imagination, qui ramenait toujours ma pensée vers M. de Trézonne, je travaillais du matin au soir, un peu fiévreusement, sans m'accorder un instant de distraction. Catherine en était émerveillée et, en soupirant, me comparait à Angélina, dont la paresse et le mauvais vouloir devenaient impossibles à vaincre. Les reproches de la mère, les colères du père, la laissaient insensible. Elle se riait d'eux et leur disait « Je veux vivre comme il me plaît. Si vous me faites la vie dure ici, j'irai me placer à Paris. » Maintenant, elle évitait de m'adresser la parole, mais je rencontrais souvent son regard hostile, mauvais, qui semblait épier tous mes gestes. Le samedi, j'allai voir M. Rouchaine. Je le trouvais un peu fatigué et somnolent. Il me dit « Monsieur de Trézonne est venu hier. Il m'a apporté ce livre pour que je vous le remette, au cas où il ne serait pas là, quand vous irez voir Mademoiselle Jacqueline. » Je pris le volume relié de peau fauve, sur lequel étaient frappées les initiales et les armoiries de son propriétaire. Le vieillard me regardait pensivement. Je dis, en feuilletant le livre d'une main distraite, « Je le lirai le plus tôt possible et je vous le rapporterai pour que vous le rendiez à M. de Trézonne lors de sa prochaine visite. » Oh, M. Guy a dit qu'il n'en avait pas besoin et qu'il fallait surtout ne pas vous presser. Et puis, il veut en causer avec vous. Cependant, il m'en dit à peine quelques mots le lendemain quand je le vis au château. Il parla surtout musique et se révéla à moi comme un exécutant au jeu souple et expressif, profondément artiste. Il accompagna mon chant, me donna quelques conseils clairs et brefs et, sur un timide désir que j'exprimais, joua les adieux de Beethoven, une de mes sonates préférées. Une tentation de fleur de son frère fut arrêtée par un seul regard. L'autorité de l'aîné, du chef de famille, n'était pas un vain mot ici. Il est vrai que cet aîné avait une nature et une apparence de dominateur et qu'en outre, il détenait la source des rentes indispensables à sa belle-mère et aux deux jeunes gens. Tout ceci expliquait que chacun fila doux devant lui, comme disait Bardôme. Je rentrai cette fois beaucoup plus satisfaite de mon après-midi que le dimanche précédent. Je n'avais pas été coquette, M. de Trézonne s'était montré aimable, presque attentif. En m'accompagnant avec sa sœur, il avait cueilli des roses fort belles que j'admirais au passage et me les avait mises entre les mains en disant « Elles vous tiendront compagnie dans la solitude de votre demeure ». Et, de fait, quand je fus installé ce soir-là près de ma table avec un livre à la main, je me sentis moins seule dans la maison silencieuse, avec ses fleurs encore vivantes autour de moi. La fenêtre était ouverte, l'air de la nuit entrait, légèrement rafraîchi, tout parfumé des senteurs du jardin, et frôlait les corolles roses, nacrées, couleur de soufre. Un papillon sombre rôdait autour de la lampe, et le bruit de son corps frappant le verre brûlant passait dans le silence. Penché vers la lumière, je tenais les yeux fixés sur le volume et je ne lisais pas. Ma pensée était loin d'ici. Elle s'en allait vers la Bottellerie, vers une pièce que je ne connaissais pas, mais que je m'imaginais d'un luxe sévère, très aristocratique. Il avait dit aujourd'hui que chaque soir il lisait, longtemps, dans son cabinet de travail. À cette heure, il devait y être. Je voyais par la pensée son beau profil dur se dessinant dans la lumière, son regard ferme et profond, quand il s'interrompait pour songer. J'eus un brusque mouvement et le livre glissa de mes mains. Mon cœur se gonfla sous l'afflux d'une émotion éperdue. Je songeais avec effroi. « Mais qu'ai-je donc? Qu'ai-je donc ?» Je restai là, immobile, frissonnante. Le papillon, infatigable, continuait son vol stupide. L'air amenait jusqu'à moi tous les arômes d'alentour, et je n'osais plus m'interroger, j'avais peur. Était-il possible qu'il me prît le cœur, à moi aussi? Était-il possible que je fusse aussi sotte, aussi faible? Je balbutiais. « Maman! Maman !» C'était l'appel instinctif de ma solitude, de mon angoisse. Puis j'ajoutai, en joignant mes mains qui brûlaient, « Mon Dieu, faites que je chasse cette folie de mon imagination !» Un grésillement se fit entendre, puis un bruit léger. Le phalène venait de se brûler les ailes et tombait sur la table près de moi. Je me levai et fis glisser à terre l'insecte. Puis je repris le livre d'une main agitée. Je ne voulais plus songer, il fallait que je remue, que je chasse cette pensée. Et puis l'autre, celle qui me disait que je plaisais à Guy de Trézonne, qu'il m'aimait peut-être comme pouvait aimer un homme de cette nature, sans tendresse, mais avec une passion concentrée, despotique, annihilante. J'allais vers le petit chiffonnier où je rangeais le livre prêté par M. de Trézonne. Tout à l'heure, j'avais cru remarquer dans les tiroirs quelques dérangements légers. Cette fois, sur la tablette de marbre rose, un papier que je n'avais pas aperçu d'abord attira mon attention. Je le pris. Quelques lignes y étaient tracées, d'une écriture tourmentée, visiblement déguisée.
« On sait bien pourquoi vous allez à la Bottellerie et qui vous rencontrez à la Sauvée. Prenez garde, ça se saura bientôt dans tout le village. »
Je restai un moment abasourdi. Puis l'indignation surgit en moi. Quoi ? On osait imaginer je ne sais quelle louche manœuvre de ma part ? On osait m'écrire ceci ? Et qui donc ? Quel était le lâche auteur de ce misérable billet ? Qui donc me détestait assez pour ? Angélina. Le nom s'inscrivit dans ma pensée en lettres fulgurantes. Oui, cette fille me haïssait, je le savais. Sa folle passion pour le châtelain lui inspirait cette jalousie odieuse et l'amenait à chercher des moyens de me déconsidérer. Ce devait bien être elle que j'avais vue sortant du taillis 8 jours auparavant. Elle m'épiait sans doute, et elle avait pu m'apercevoir près de la grille de la Bottellerie avec M. de Trézonne. Sa vue perçante avait dû remarquer mon émotion et en tirer quelques conclusions erronées à l'appui de sa fureur jalouse. Puis, qu'importait à cette fille sans conscience le mensonge, la calomnie ? Toutes les armes lui seraient bonnes contre moi, je le pressentais. Je ne dormis guère cette nuit-là. Trop d'inquiétudes m'oppressaient et me tenaillaient l'esprit. Au matin, je me levai avec la résolution d'aller tout raconter au curé et de lui demander conseil. À 7 heures, je me trouvai à l'église. Mais à ma grande surprise, le prêtre ne parut pas, la messe ne fut pas dite. Je me rendis alors au presbytère où la servante m'apprit que monsieur le curé était malade et qu'on craignait une fièvre muqueuse. Je rentrai fort désappointé à la meulière. Il ne me restait plus qu'à attendre la guérison de celui à qui, seul, je pouvais faire ma confidence. Le plus pénible pour moi fut de me retrouver avec Angélina au repas. Quand nous fûmes assises en face l'une de l'autre, comme de coutume, je la regardai avec une fierté dédaigneuse. Elle rougit sous sa poudre et détourna les yeux. Si ma conviction n'avait déjà été établie, je n'aurais pas douté dès ce moment-là. J'avais promis à Jacqueline d'aller faire de la musique avec elle le mercredi suivant. Comme je ne voulais pas avoir l'air de prendre en considération le billet anonyme, je ne manquais pas de me rendre au château, où d'ailleurs je ne vis ni le vicomte ni son frère, tous deux absents pour la journée. De cette absence, j'éprouvais un soulagement. Maintenant que je savais, hélas, la nature du sentiment que m'inspirait M. de Trézonne, l'idée de me retrouver en sa présence m'était infiniment pénible. Et s'il devinait ? À cette seule pensée, je tremblais de confusion. Comment je devais veiller sur moi maintenant ? Son coup d'œil semblait si observateur. La meilleure solution, celle aussi probablement que me conseillerait le curé, serait d'éviter les rencontres avec lui. En ce cas, je devrais me tenir éloigné de la Bottellerie et de la Sauvée. Or, je n'en voyais guère la possibilité, maintenant que, dans l'une et l'autre demeure, j'étais traité en intime. Moi qui croyais trouver ici la tranquillité, pensais-je avec tristesse. Au lieu de cela, j'entrevois la perspective de quitter ce pays que j'aime déjà, ces braves gens qui me sont attachés. Car Angélina, par ses calomnies, peut me rendre la vie intenable. Il est si facile de dénaturer l'acte le plus innocent. Parfois, une autre pensée me venait à l'esprit. S'il m'aime, s'il songe à m'épouser. Mais aussitôt, je me rappelais ces mots qu'il avait dits, paraît-il, à Madame Mossette l'année précédente et qu'elle m'avait répétés incidemment un jour où nous parlions des habitants de la Bottellerie. Je ne comprends que le mariage de raison. L'autre n'est trop souvent qu'une chimère qui suit la désillusion.
Comment l'homme qui avait parlé ainsi songerait-il à faire sa femme d'une jeune fille sans le sou, simplement parce qu'elle était jolie et qu'elle lui plaisait? Ce ne serait pas un mariage de raison, celui-là. Et d'ailleurs, même en admettant un instant l'hypothèse de cette demande, comment y répondrais-je autrement que par un refus, sachant d'avance que la femme de Guy de Trézonne devait être soumise sans réserve à l'impérieuse volonté maritale? Pas un instant, je ne pouvais envisager la perspective de cet esclavage. Non, même avec tout l'amour imaginable dans mon cœur pour lui, jamais je ne me mettrais sous le joug d'un maître dur, orgueilleux, froidement dominateur, comme devait l'être celui-là. Toute ma fierté se révoltait à cette pensée. J'essayais alors de rire de moi-même, de ma folie, de mes imaginations. J'essayais d'oublier le regard qui s'était attaché sur moi, le regard plein de passion tranquille et contenue qui avait tenté de me prendre le cœur, qui y avait peut-être réussi. Je ne voulais pas l'aimer, ce Trézonne, je ne le voulais pas.